Bonjour Caroline Brouet et bonjour à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Le 27 octobre 1995, par l'arrêt commune de Morsang-sur-Orge, le Conseil d'État a interdit les spectacles dits de lancer de nains qui devaient se dérouler dans des discothèques de cette ville. Il a considéré que ces spectacles portaient atteinte à la dignité de la personne humaine et que le respect de cette dignité devait être regardé comme une composante de l'ordre public. De la même façon, en 1991, un arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation a affirmé que le recours à la gestation pour autrui était contraire à l'ordre public interne. Cette jurisprudence a été ensuite confirmée par le législateur dans la loi bioéthique du 29 juillet 1994 relative au corps humain. Enfin, lors de la révision des lois de bioéthique en 2011, après des débats d'experts et de citoyens qui ont été intenses, l'interdiction de la GPA n'a pas été levée. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, deux histoires nous interrogent sur le sens de cet argument de la dignité humaine qui peut sembler assez confus. Au nom de la dignité humaine, on peut revendiquer, par exemple, la légalisation du suicide médicalement assisté ou au contraire, son interdiction absolue. Pourquoi, au nom de la dignité humaine, nous interdire de faire ce que nous voulons de notre propre vie, même lorsque nous avons mûrement pesé notre décision? Si par nos décisions, par nos actions, nous ne causons de tort à personne, pourquoi certaines personnes savent-elles mieux que nous ce qui est bon pour nous? De quel droit se permet-on de juger à notre place de ce qui est contraire à notre dignité? Peut-être que c'est l'introduction de l'argent dans le commerce de notre corps qui atteint sa dignité, l'intérêt supérieur de l'enfant, l'ordre public. Toutes ces questions et bien d'autres que s'est posée Stéphanie Thomas en racontant ces deux histoires jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Voilà, ça c'est mon petit fief à moi.
Ça va,
hein ? Ça va, ça va, ça va. C'était un peu mon petit bureau ambulant, comme on dit, hein. Je voulais être pilote de chasse, moi. Mais bon, quand j'ai vu que ma taille ne suivait pas, ben... C'est un rêve qui s'est volatilisé, quoi. Je suis aussi grand que 12 rouleaux de papier chaude, un sur l'autre. J'ai 1m20 et j'ai 45 kilos. Voilà. J'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de natation, de vélo. L'équitation, j'ai fait skateboard, roller. J'étais assez sportif quand j'étais gamin. C'est vrai qu'à l'école, j'étais pas très très brillant, moi. Hein. C'est moi qui ai le plus de colle à l'école. Enfin, le cancre, quoi. Une fois, il y avait un show à Forbach dans une boîte. C'était le boxing show féminin. Hein. Alors, ils étaient en ring avec deux super nanas. Et puis moi, c'est mes potes, ils m'ont carrément presque jeté sur scène. Quoi. Alors ils m'ont dit, vas-y, vas-y. Je dis, non, non, ils m'ont attrapé, ils m'ont jeté là-dessus. Et puis, bon, le show, il a duré quoi? Une petite demi-heure. Hein. Et pendant une demi-heure, je faisais l'arbitre et tout. Et le présentateur de ce show, il a vu que je déraillais tellement que lui, après ça, il est venu me voir, il a dit, écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Quelques mois après, j'ai eu un coup de téléphone de Jean-Pierre Spidel. Il y avait une société qui s'appelle Fun Production à l'époque. Et il m'a convoqué. Puis moi, j'ai pris le train, je suis descendu à Nice. Hein. Et puis il m'a montré des trucs qu'il a vus sur une émission télé en États-Unis le lendemain. Et le gars-là, il voulait faire ça. Mais il ne trouvait pas la petite personne qu'il fallait. Pour. Et le présentateur du show qui m'avait vu, lui, il lui en a parlé. Il a dit, écoute, la personne de petite taille, je l'ai. Effectivement, ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit, toi, t'es le parfait bonhomme, t'es carré, t'es musclé, est-ce que ça te botte? Et moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, allez, je fais rien, je galère, pourquoi pas? Et c'est parti comme ça. Je vous explique comment que ça se passe. Ah bah, vous prenez un petit bonhomme comme moi. Vous l'habillez comme un footballeur américain, avec des épaulettes, enfin, voilà, j'avais mon casque, j'avais mon armure, bah, j'appelais ça une armure. Hein. J'avais mes gants, j'avais mes genouillères, j'avais mes chaussures, j'avais une cape en drapeau américain. Après, j'étais sanglé, avec une sangle dans le dos. Et puis on prenait des gens. Ils s'inscrivaient à l'entrée de la boîte quand ils rentraient.
Donc ils vous lançaient.
Voilà. Et c'est mesuré après la longueur, d'après ce qu'il a jeté. Le plus loin, c'était 3,99. C'était le plus loin. Ce qui était chouette, c'est que je faisais participer les gens. Je mettais un peu d'ambiance dans les boîtes, quoi. Je ne travaillais que sur contrat. Hein. Je travaillais que les week-ends. Et je travaillais que dans les discothèques. Hein. Un peu partout en France, un peu en Europe. Ouais, c'était bien. C'est bien. Mes parents, ma mère, elle comprenait pas trop ce que c'était. Et j'ai invité mes parents, mes amis, tous mes copains, enfin bref. Je l'avais fait au Malibu, à Saint-Avold, c'est le dernier que j'ai fait du lancer de nain. Et c'est là-bas que j'ai fait mes adieux, quoi. Dur, très dur. Quand on fuit ton show, tu sais que c'est ton dernier. Quand tu rentres dans tes loges, et quand tu prends ton habit et que tu le poses sur son truc comme Batman, ça fait mal au cœur, quoi. Parce que tu sais que cet habit-là, ce costume-là, bah tu le remettras plus jamais, quoi. Sur le coup, c'est vrai que je m'en suis pas remis parce que je méritais pas ça, en fait, quoi. Je sais que ce monde-là, pour moi, c'est fini, quoi. Et ça m'a tellement bouleversé que le monde artistique, que je voulais plus en entendre parler, quoi. Ça m'intéresse plus de commencer quoi que ce soit, quoi. J'avais l'association des personnes de petite taille sur la gueule. Qui trouvaient ça dégradant parce qu'on jette pas une personne, machin et tout. Je disais, mais attendez. J'ai envie de critiquer quelque chose, venez voir. Et si vous trouvez un danger dans ce que je fais, d'accord, j'arrête tout de suite. Pas un qui est venu, mais par contre, ils avaient tous la bouche ouverte pour moi. Hein. Atteinte à la dignité humaine, c'est un non-respect de soi-même, c'est... C'est pas juste qu'on empêche les gens de travailler, c'est juste par un show qui déplaît à certaines personnes. Quoi. Parce que ça déplaisait à une certaine Mimi Mati.
Et Mimi Mati, elle est venue vous voir?
Non, elle, je l'ai vue à la télé. Elle a été une fois à une émission télé, toutes les deux. Puis elle m'en a mis plein la gueule. Quoi. Elle m'a cassé. Quoi. Elle m'a dit, ouais, on peut te faire pipi dessus. On peut te prendre, on peut te catapulquer. Si déjà tu fais ça, on peut faire plein de choses avec toi. Je dis, non, mais vous avez rien compris. Quoi. Il n'y a aucun danger, quoi. J'ai des armures hyper résistantes. Je me suis jamais cassé quelque chose. Je vois pas où c'est qu'il est le dégradant là-dedans. Je faisais pression sur les gérants de boîtes de nuit. Ils sont venus avec des gendarmes, avec un arrêté dans la main, préfectoral. Puis ça se transformait en annulation, quoi. On pouvait pas travailler, quoi. C'est qu'à chaque arrêté qu'on a et qu'on fait les routes qu'on fait, on perdait de l'argent, quoi, gagnait rien. Et un jour, ça s'est arrêté. Et maintenant, je suis au chômage, je suis au RSA, je gagne 439 balles par mois.
Vous gagnez bien votre vie, à l'époque?
Oui, je gagnais bien ma vie. Mais mon argent, il a été bloqué par le Conseil d'État, que je n'ai jamais eu, d'ailleurs. Les procès que je gagnais, les gains de cause que je recevais, les dommages et intérêts, tout ça, ça a été bouffé par le Conseil d'État. Et j'ai entendu des sommes folles au tribunal, j'en ai jamais vu la couleur. Et maintenant, je suis au RSA. Chapeau, hein. J'habite chez ma maman. Je me prive de plein de choses. Je vais plus dans les boîtes, je vais plus dans les restos, je vais plus au cinéma. Maintenant, je me retrouve là. Et bah, j'essaie de faire ma petite vie comme je peux, quoi.
Je suis étudiant en droit et j'ai eu l'occasion d'étudier le cas de Manu.
Encore ? Célèbre, ils prennent tous mon cas dans toute la France pour ça. Mmh. Imagine un peu le truc.
C'est un des cas les plus compliqués du droit parce qu'il y a une question de dignité humaine.
Ah là.
enfin, celle qui était invoquée par, par le Conseil d'État, etc. Et d'un autre côté, la question de aussi dignité humaine, dans la mesure où c'est son travail, et puis qu'on n'a pas envie de travailler de quelqu'un comme ça. Et en fin de compte, quand on a disserté sur ça, c'est très compliqué de faire la part des choses. Je pense personnellement que c'était pas quelque chose à faire de lui enlever son travail comme ça, enfin pas pour ces motifs là en tout cas. On aurait pu se poser la question, ça aurait pu être un débat, mais dans tous les cas, il n'y a pas à dire après pour moi, voilà monsieur, vous êtes de petite taille, très bien, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser votre corps pour faire votre travail. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de gens qui utilisent leur corps pour faire leur travail, dont Mimi Mati d'ailleurs, qui joue de sa petite taille pour aussi faire la promotion de sa série. Et puis, donc en fait, on t'a enlevé ta dignité alors que cette décision a été rendue pour une question de dignité humaine. C'est un choix personnel, il a décidé de le faire, il gagnait de l'argent avec ça, c'est très bien, il avait une vie devant lui qui l'attendait, qui était magnifique.
Moi ce que je voulais, c'est avoir un job, m'éclater, être au contact des gens, tu vois, discuter. Je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, moi à l'époque, j'étais jeune, j'avais que 24 ans. Et puis maintenant, je suis à la case départ de nouveau, quoi, faut que je reconstruis tout.
Donc en fait, où je réussis, ou je rate mon année à cause de toi, quoi.
Si tu le rates, tu le dois qu'à toi, hein. Moi j'ai rien à voir, moi, dans l'histoire.
C'est une introduction au droit administratif. C'est très, très instructif.
Voilà.
C'est comme les mères porteuses, en fait. C'est la liberté d'utiliser son corps aussi, d'une certaine façon.
Oui, mais ils n'ont pas le droit non plus.
Oui, mais il y a des choses qui ne s'achètent pas. C'est-à-dire que pour les mères porteuses, on prend le cas, on voit qu'en Californie, notamment, il y a des femmes pauvres. Les femmes pauvres vendent, entre guillemets, leur corps pour offrir un enfant. Ça, question de dignité humaine, c'est moyen, parce qu'elles y sont, entre guillemets, forcées, implicitement. Du fait de leur bas revenu, parfois, il y a des choses qui ne s'achètent pas.
France Culture, les pieds sur terre.
Je suis une maman de deux enfants. J'ai une fille de 14 ans, un fils de 15 ans, et je vis aux États-Unis, à Orlando, depuis maintenant 16 ans. J'ai découvert la GPA par hasard. Une de mes amies avait des problèmes d'infertilité en France, avait besoin d'un donneur. Il y a une très longue liste d'attente. Donc, je me suis renseignée au niveau des États-Unis et de la donation, où c'est beaucoup plus facile. Et en recherchant la donation pour elle, j'ai découvert la GPA. Elle, entre-temps, elle est tombée enceinte. Un miracle. Donc, plus besoin de moi. Donc, la GPA, c'était bien pour moi, très égoïstement, parce que je pouvais être enceinte, ce que j'aime. Je me trouve bien, je me trouve belle, sympa, j'aime la grossesse. Donc, c'était tout avantage, sans avoir l'inconvénient d'avoir un enfant après, parce que j'avais passé les 35 ans et je ne voulais plus du tout d'enfant après mes 35 ans. Et je me suis lancée dans l'aventure. Donc, j'ai rempli un dossier avec une agence et on m'a présenté un couple très vite. J'ai une personne de l'agence qui est venue chez moi, qui a fait une visite à domicile, comme on dit, pour voir que on est stable, qu'on a un foyer organisé, qu'on est financièrement responsable.
Parce que vous faisiez quoi comme métier ?
J'étais vendeuse indépendante, enfin commerciale, pour des boîtes qui faisaient de la production en gros de gâteaux. Donc en fait, j'avais mes horaires, je faisais ce que je voulais, puisque je bossais de chez moi et en voiture. Donc voilà, j'ai rempli l'application, j'ai eu l'agent qui est venu me rendre visite chez moi. Et ensuite, ça a été une évaluation psychologique, une évaluation médicale, rencontrer les parents, voir si on avait ce petit déclic et si on était d'accord. Encore des rendez-vous avec les médecins pour être sûr qu'on comprend tout le protocole de médicaments, qui est assez lourd parce qu'on commence des médicaments en gros 6 semaines avant le transfert d'embryon. On a d'abord un médicament qui s'appelle le Lupron qui nous stoppe notre ovulation. On a de l'estrogène pour nous construire notre paroi utérine. Et 5 jours avant le transfert, on a du progestérone. Et ça dure entre 10 et 12 semaines après le transfert, donc jusqu'à la fin du premier trimestre de grossesse. C'est pas top, c'est des intramusculaires qu'on se fait toutes seules dans les fesses, qui sont très douloureuses, qui sont tous les jours. J'ai une peur folle des aiguilles, donc c'est pas cool parce que c'est quand même une aiguille de 3 cm qu'on se met toute seule. Et l'estrogène, c'est en général des inserts vaginaux, donc il y a souvent des infections. Et puis quand on a une vie de couple, il y a quand même entre 3 semaines à 6 semaines suivant les médecins pour lesquels on a une abstinence sexuelle. Donc si on a un mari ou un partenaire, il faut qu'il soit aussi bien à bord. Et bref, avec ce couple américain, on a fait 4 transferts. On a eu des transferts négatifs et un transfert positif où je suis tombée enceinte de jumeaux. Malheureusement, on n'a jamais eu de battement de cœur. Et la maman a un peu poussé avec le médecin, donc on a continué les médicaments un peu plus longtemps que nécessaire, même s'il n'y avait pas de battement de cœur. Et une fois qu'on était sûr que ça n'avait pas marché, elle a de toute façon refusé l'avortement.
Et vous n'aviez pas le droit de dire quelque chose ? Moi, je veux me faire avorter ou quoi ? On n'est plus maître de son corps dans ces cas-là ?
On n'est pas maître de on est maître de son corps, mais on a un contrat. Et comme c'était ma première fois et que c'était pas une éventualité, une maman qui croit pas à la réalité et qui est pas pour un avortement quand il y a pas de battement du cœur, c'est quand même quelque chose qui arrive pas très souvent. Ceci dit, c'est dans tous mes contrats qui ont suivi, mais sur celui-là, ça y était pas. Et donc là, j'ai dit, on va arrêter. C'était en 2008, donc je suis quand même restée sur les forums régulièrement, juste pour aider, répondre aux questions. Comme c'est illégal en France, c'est pas facile de trouver les renseignements qu'il faut, puis avec la barrière de la langue. Et en 2010, j'ai rencontré sur un forum internet pour mères porteuses, un couple de Français. Je les ai aidés pour leurs questions, leurs démarches, et qu'ils comprennent bien le procédé, et ils m'ont dit pourquoi on le fait pas ensemble. Donc je suis partie en Espagne, comme je fais chaque année, pour rejoindre mes parents en vacances. Et ils sont venus un week-end. Donc on s'est rencontrés sur place, en vrai, pour savoir si ça passait bien. Et c'est bien passé. Donc c'était un papa et une maman de 38 et 39 ans. Ils avaient une première grossesse. Et à 6 mois, il y a eu des complications sur la grossesse. Elle a dû avoir une césarienne en urgence. Le bébé n'a pas survécu. Et la personne qui lui a fait la césarienne lui a détruit l'utérus, donc elle a eu une ablation totale. Par contre, elle avait ses ovaires, donc elle avait toujours la chance de pouvoir avoir un enfant biologique en passant par une mère porteuse. Donc ils sont venus au mois d'août, on a fait la ponction et le transfert en septembre. On est tombée enceinte, on était contents, on a eu les tests sanguins positifs, on a eu un premier battement du cœur à la première écho qui est un mois après le transfert, et à la deuxième, il n'y avait plus de battement du cœur. Donc, on m'a donné des médicaments pour provoquer un avortement naturel. C'est pas passé. On a recommencé une deuxième fois, ça n'a toujours pas marché. Ben, je suis passée en clinique et je me suis fait donc avorter entre novembre et décembre. Mais ça ne m'a pas vaccinée. On a recommencé en février. On est tombée enceinte. Les deux embryons ont tenu. Donc, tout le monde était très content. Et quand on a été au premier battement du cœur, on a vu qu'il y avait un sac qui ne s'était pas développé. Et le deuxième, on avait un bon battement du cœur. Je suis venue leur rendre visite en France à 20 semaines pour faire l'échographie de l'anatomie. Et ils ont en même temps découvert le sexe de leur enfant. Donc à partir de 22 semaines, quand l'enfant reconnaît les sons, je me mets des écouteurs sur le ventre avec leur voix où ils ont enregistré des histoires pour que le bébé s'habitue à la voix de ses parents. Et quand bébé bouge, ou des fois ça bouge de trop, j'arrive pas à dormir, je dis bon, tu te calmes, hein, tu seras bientôt avec tes parents, mais moi là maintenant je vais dormir. Donc on le prend comme ça. Ma fille, elle était à côté, elle venait me faire des bisous sur le ventre. Oh, j'ai parlé à tes parents aujourd'hui, et on sait que c'est pas le nôtre, on sait qu'il fera pas partie de notre famille. Donc je le vis comme le leur. C'est le leur. On a accouché fin 2011 et puis c'était une naissance et là ça m'a complètement transformée. C'est-à-dire que là on réalise qu'on fait dans la salle d'accouchement, c'est une émotion qui est indescriptible. J'avais la maman au début qui avait presque mal pour moi, donc elle me regarde quand je suis en train de pousser. T'es sûre, t'es ok, t'as pas trop mal, ah là là, j'ai mal pour toi et tout. L'épisio, elle se sentait mal. Et moi j'ai dit non, mais tout va bien, c'est normal. Et puis quand le bébé sort de mon corps, le médecin le présente au-dessus de mon ventre pour que le papa coupe le cordon. Et ensuite, la maman fait du corps à corps. Et c'est magique, quoi. Là, c'est indescriptible. On voit des personnes devenir parents. Quand elle a son bébé, c'est les larmes. Et c'est les larmes en me regardant. Parce que c'est je pense que c'est à ce moment-là qu'ils réalisent vraiment, les parents, ce qu'on fait pour eux. Alors, une fois que bébé s'en va, ça me pose aucun problème. Dès le début, j'ai su que c'était pas le mien, donc je suis contente de rentrer chez moi et d'être calme et de pas avoir ni couche, ni biberon, ni cri, ni rien.
Juste le plaisir de les porter, en fait.
Ouais, c'est ça. Le plaisir de les porter, puis après de les dire à quelqu'un et de faire « C'est ton cadeau Démerde-toi J'ai travaillé de 2011 à jusqu'à il y a en gros 6-8 mois pour une agence de GPA aux États-Unis. Donc je m'occupais de recruter des porteuses, de parler avec des parents d'intention, de voir justement quelle personne leur correspondrait, donc de connaître leur profil. Donc j'étais complètement dans le milieu à parler à des gens qui ont besoin d'une porteuse. Et je me suis dit, oh, je leur ferai peut-être. J'ai parlé avec mon fils qui était d'accord. Dès l'instant où il a eu un médecin au téléphone qui lui a dit que je prenais pas de risque, il était d'accord pour que je recommence. Et j'ai ma fille qui venait, qui écoutait les interviews quand je rencontrais des gens sur Skype et qui m'a dit ouais, cette fois-ci, si tu recommences, je veux que tu le fasses pour un couple de papa. Je suis sûre qu'il y a moins de porteuses qui les aident, donc moi j'ai décidé, c'est un couple de papa. Donc elle est venue, elle a fait des interviews avec moi, elle a choisi un couple. Elle m'a dit bon ben voilà, celui-là je l'aime bien. Donc j'ai fait un aller-retour à Paris. Je les ai rencontrés et c'était le 6 avril et début mai ils étaient aux États-Unis pour faire leur donation, pour qu'on fasse les examens psychologiques, le contrat et on a remis ça en septembre 2013. Donc on a mis un embryon de chaque papa et les deux sont accrochés mais il n'y en a qu'un qui a évolué, donc c'est beaucoup plus rassurant quand il n'y en a qu'un parce que j'ai 42 ans. Donc c'était beaucoup mieux pour moi, parce que j'ai plus l'âge de porter des jumeaux. Et j'ai accouché fin mai 2014, d'un petit bout. Donc c'était une très très longue journée. En plus j'ai la péridurale qui n'a pas fonctionné pendant les 22 heures, elle s'est arrêtée 3 fois. Donc j'ai vraiment senti la douleur. J'avais les papas en face de moi qui étaient dans un état pas possible pour moi, parce qu'ils se sentaient mal pour moi, quoi. Donc c'était tout mignon. Le gynéco m'a dit, écoute, ça fait 22 heures, t'as plus de contractions. Donc là, on va aller au bloc, on va faire une césarienne. Et donc, je regarde les papas et je leur dis, bon, ben, c'est qui vient avec moi? Parce qu'il y a une place. Et là, ils m'ont regardé, ils sont devenus livides. Ils m'ont dit, si tu veux qu'il y ait quelqu'un, il y en a un des deux qui va venir. Mais franchement, là, on a déjà tellement mal pour toi que je pense pas qu'on va bien le vivre. Donc du coup, je suis partie toute seule au bloc. J'ai dit au gynéco, je veux pas voir bébé, je le vois après ses parents. Et là, il m'ouvre et il me dit, t'es sûr, tu veux pas le voir? Il est complètement chauve. Donc j'ai fait, ok, bon, ben présenté comme ça. Donc j'ai quand même vu bébé en premier, même si je voulais pas. Mais ils m'en ont pas voulu, ils ont pas du tout fait la tête, ils ont trouvé ça normal. Ils l'ont monté aux parents. Et moi, je suis remontée dans ma chambre à 6 heures et j'avais un texto, on est trop content, on t'aime trop, il est trop beau. Donc voilà. Eux, ils sont partis de l'hôpital 24 heures après. Et moi, je suis restée 24 heures du plus. Quand on porte pour une femme, même si elle est complètement OK et qu'elle sait qu'on l'aide à réaliser son rêve, on fait quand même quelque chose qu'elle ne peut pas faire, qu'elle ne peut pas vivre. Donc il y a quand même une sensation d'impuissance. Et il y a la jalousie, il y a un moment où ça ne passe pas, il y a tout ça. Deux hommes, ça ne connaît rien. Donc c'est aussi ce qui attire beaucoup de porteuses. Avec deux hommes, je peux me plaindre parce que je n'ai pas dormi, parce que bébé a bougé, on ne va pas me répondre, ouais, c'est pas grave, c'est normal. On me dit, oh, t'es pas trop fatiguée, j'espère que tu dormiras mieux ce soir. C'est une approche complètement différente. On est beaucoup plus chouchouté par un couple homo qu'on est par un couple traditionnel. Et puis c'est différent. Un couple d'hommes, c'est important qu'il y ait une bonne relation avec la porteuse pour la suite, parce que deux hommes, ça ne peut pas avoir d'enfants, quoi. Donc, avoir une histoire à raconter et des photos et un suivi, c'est très important, quoi. Donc, on se revoit là sur Paris et on dîne ensemble ce soir et ils repartent demain. Donc, je vais revoir petit bout. Enfin, je l'ai vu, pas en vrai, mais je l'ai vu en vidéo parce qu'il m'envoie des photos, alors toutes les semaines. Et j'ai eu les vidéos, j'ai eu les premiers bruits, j'ai eu les premiers. Donc, j'ai tout, je reçois tout. Il n'a toujours pas de cheveux. Je pense que la France devrait réaliser que les mères porteuses ne sont pas des pauvres filles, qu'on n'est pas des esclaves, qu'on ne se fait pas utiliser, qu'on y va complètement volontairement, qu'on en ressort quelque chose de personnel qui est inexplicable. On est des femmes matures, on a fini notre famille, on a des enfants en bonne santé, on a la possibilité d'aider un couple à devenir parent. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Si on fait mère porteuse pour l'argent, on s'arrête au début, on s'arrête avant de commencer. D'avoir tout le protocole médicament, toutes les obligations, les rendez-vous, le contrat qui est déjà traumatisant la première fois qu'on le lit. Si on le fait que pour l'argent, on continue pas. J'ai des porteuses avec qui je travaille qui ont un salaire de 100 000 $, avec leur époux qui gagne la même chose si ce n'est plus, et avoir une compensation de 25 000 ou peut-être 30 000 $ pour porter un enfant. Pour une porteuse, de trouver un couple qui accepte de lui faire confiance et qui lui laisse la responsabilité de porter l'enfant, c'est un beau geste dans les deux sens. L'argent permet au couple et à la porteuse, à la fin de leur grossesse, s'ils n'ont pas évolué au niveau de l'amitié et qu'ils sont restés très minimum en relation parce que c'est ce qu'ils voulaient, ça leur permet de se regarder chacun dans la glace et de se dire « on a fait notre partie du contrat ». On a chacun fait ce qu'on s'était engagé à faire. On n'est pas obligé de garder le contact. La beauté des choses fait que dans 90% des cas, on reste en contact, même si c'est deux fois par an avec des photos à Noël et aux anniversaires. C'est gonna lifestyle. C'est gonna lifestyle. Moment time. So high. Butterfly, die Welt herum, sie fliegt vorbei, die Sonne scheint, es ist Sommerzeit, die Welt ist groß und sie zieht mich magisch an, die Fahrt geht los, sie war niemals unterbrochen, niemals unterbrochen für lang, verlass den alten Hafen. Lass alles stehen und liegen, mach mich auf die Suche nach einer neuen Heimat. Irgendwas, das mich hält, irgendwas, das mich glücklich macht. Für einen Tag, für eine Nacht, die Götter leicht da. Von Tag zu Tag und von Ort zu Ort.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, le corps, l'argent et la dignité. Humaine, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Valérie Borst, à Manuel Wackenheim et à Sandrine Lévy. L'attachée de production, c'est Sandrine Chaperon avec Alison MacTaggart. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Vous pouvez également partager, je vous y encourage, cette émission sur les fameux réseaux sociaux, Les Pieds sur Terre France Culture, notre compte Facebook et notre compte Twitter. Voilà. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez et je vous souhaite une bonne après-midi sur France Culture.